RCF.
L'Hebdo Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette hebdo-région des Pays de la Loire. Nous allons commencer dans quelques instants avec l'actualité de la semaine. Après les présidentielles, le deuxième grand rendez-vous politique, eh bien, ce sont les législatives. Le PS est venu lancer sa campagne nationale pour les législatives au Mans, en présence de Bernard Cazeneuve. Compte rendu dans quelques instants de cette soirée avec Aubery Métro de RCF Le Mans. Ensuite, direction le Maine-et-Loire pour y retrouver Bastien Lallier de RCF Anjou, qui nous fera rencontrer le coach de l'équipe de tennis de table de la Romagne, Fabrice Coutolo, qui nous racontera sa difficile semaine que vient de vivre son club. Vainqueur en finale aller de la Coupe d'Europe vendredi, la formation des Mauges a également perdu tout espoir de remporter son premier titre de champion de France mardi après une lourde défaite face au leader Chartres. Samuel Pecot de Fidélité Mayenne nous présentera une initiative, celle du Club des aînés ruraux de Congrier, un petit village près de Cran, où les retraités les plus jeunes se mettent au service des plus anciens. La pause spirituelle, nous la ferons avec Fanny Brevet de RCF Vendée, qui nous parlera de ces deux paroisses en Vendée qui se consacrent ce vendredi au Cœur Immaculé de Marie, à la veille du centenaire des apparitions de Fatima. Et enfin, nous resterons en Vendée où se prépare à fêter ce samedi les champions du Vendée Globe, une cérémonie de clôture de ce 8e Vendée Globe inédite dont nous vous dévoilerons le programme. Voilà donc pour le sommaire de cette émission, c'est l'Hebdo Région qui vous est présenté par Thomas Cochebray de RCF Vendée en collaboration avec les radios chrétiennes des Pays de la Loire.
L'Hebdo Région, l'actu de la semaine.
Allez, on commence tout de suite donc avec cette actu de la semaine, les élections législatives et le PS qui présente sa campagne nationale au Mans. On y retrouve Aubery Métro, bonjour.
Bonjour Thomas.
Alors Aubery, c'était l'un des événements politiques de cette semaine en Pays de la Loire. Le PS est venu lancer sa campagne nationale pour les législatives au Mans.
Et oui, après avoir donné la démission de son gouvernement, Bernard Cazeneuve était au Mans mercredi soir. L'ex-ministre s'est exprimé devant un peu plus de 250 militants. Ils étaient réunis dans une petite salle de maison de quartier dans le sud de la ville. Et même si les ambitions paraissaient modestes, il est clair que Bernard Cazeneuve était là pour remotiver les troupes.
Eh bien moi, je suis de gauche et je souhaite la réussite du nouveau président de la République parce que j'aime mon pays, parce que je suis républicain, parce que j'ai vu le combat qu'il a dû mener, que nous avons mené avec lui, et parce que je sais que s'il devait échouer, ceux qui ont mené le débat télévisé de la semaine dernière face à lui, en maniant l'insulte, en maniant l'invective, en maniant le mensonge, en maniant la manipulation, pourraient alors s'ériger en alternative dont nous ne voulons pas, dont nous ne voudrons jamais. Et c'est la raison pour laquelle nous devons partir dans cette campagne législative en disant qui nous sommes, en disant nos valeurs, en disant nos ambitions de justice sociale, mais nous devons au nom de tout cela dire que nous souhaitons la réussite de la France et que pour cela nous apporterons notre contribution à la réussite d'un quinquennat qui commence. Sinon, mes chers amis, chers camarades, plus rien n'aurait de sens.
Mais je suppose que même s'il prône le rassemblement, Bernard Cazeneuve n'était pas là pour voir le PS s'appauvrir.
Et au premier rang, on retrouvait tous les officiels, y compris Jean-Claude Boulard, le sénateur maire du Mans, qui depuis des mois fait campagne pour En Marche. Face à cette tentation, et surtout face à la création du mouvement de Benoît Hamon, encore de celui de Anne Hidalgo et Christiane Taubira, Bernard Cazeneuve a souhaité remettre les points sur les i.
Au moment où nous devons mener la bataille pour qu'il y ait un maximum de députés socialistes au Parlement qui soient utiles à la France et qui puissent, en fonction de leurs valeurs, se positionner sur l'essentiel, certains semblent tout à coup être pris de la tentation de créer quasiment autant de partis qu'il y aurait de militants à l'intérieur du Parti socialiste. Je propose que, plutôt que de faire cela, nous rassemblions nos énergies et nos forces pour faire en sorte qu'il n'y ait pas autant de partis qu'il y ait de militants, mais qu'il y ait autant de députés socialistes, si c'est possible qu'il y en a aujourd'hui, pour contribuer à la réussite de la France.
Et puis je suppose que le Sartois du gouvernement sortant était aussi dans la salle.
Bien sûr, Stéphane Le Foll était présent. Il a pris la parole avant Bernard Cazeneuve. L'ex-ministre de l'Agriculture et porte-parole du gouvernement s'apprête à mener une bataille compliquée dans la 4e circonscription de la Sarthe, celle de Sablé, le fief de François Fillon. Il aura pour l'instant face à lui 7 candidats.
J'ai d'abord mené campagne sur ce que j'ai fait, sur ce que je suis, sur ce que je peux représenter aussi dans ce département et sur la 4e circonscription. Je vous rappelle que J'ai été élu dans un petit village à Loué. Je suis là depuis, je l'ai dit, 57 ans. Bon, voilà, donc j'ai quand même un peu aussi d'ancrage local. Donc je vais faire campagne sur ce que j'ai fait et ce que nous pouvons porter de manière collective. Mais on sait que ça viendra après le fait que les Français redonnent de la valeur au travail qui a été fait. C'est l'occasion aussi de rappeler ce qu'on a fait quand même et d'être fier de ce qu'on a fait.
Alors on l'a appris ce jeudi, Stéphane Le Foll n'a pas de candidat de La République En Marche pour l'instant face à lui. Il affirme ne rien avoir demandé à Emmanuel Macron et d'y attendre la publication définitive des 577 noms de La République En Marche mercredi prochain pour faire une déclaration.
Aubery Métro de RCF Le Mans, merci beaucoup Aubery, je vous dis à la semaine prochaine. Et puis quant à nous, eh bien nous partons maintenant vers l'Anjou pour la rencontre de la semaine.
L'Hebdo Région, rencontre avec...
Et dans cette rencontre de la semaine, nous allons parler de sport, de tennis de table pour être plus précis. Bonjour Bastien Lallier.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Bastien, ces derniers jours ont été mouvementés pour l'équipe de la Romagne, engagée notamment dans une finale continentale face à un autre club du Maine-et-Loire, une première dans l'histoire.
Et oui, drôle de semaine que vient de vivre le club de la Romagne Tennis de Table. Vainqueur incontestable de la Vaillante d'Angers en finale aller de la Coupe d'Europe vendredi, la formation des Mauges a également perdu tout espoir de remporter son premier titre de champion de France mardi après une lourde défaite face au leader Chartres. Retour sur cette semaine à sensation avec le coach de la Romagne, Fabrice Coutolo, qui garde d'abord en travers de la gorge la défaite sévère subie en championnat.
C'est vrai que le score final 3-0 est très sévère par rapport au contenu, on perd les deux premiers matchs 3-7 à 2, vraiment très serré. Voilà, c'était le match pour le titre de champion de France, je dirais. On est tombé sur une équipe de Chartres qui était vraiment au sommet de son art, très difficile à manœuvrer. Dans le contenu, on n'a pas démérité, mais au final, on perd 3-0.
Est-ce que quand on est si proche du but, même si c'est pas l'objectif du début de saison, est-ce que quand on est si proche de gagner un titre de champion de France, forcément c'est de la déception qui prime?
On est toujours déçu de perdre, on est des sportifs, on fait du sport pour gagner avant tout. Maintenant c'est du passé, on va bien sûr analyser le contenu et la forme, mais bon, il faut savoir rebondir et je dirais passer à la suite.
Vous y avez cru toute la saison, à cette course pour le titre?
Non, parce que traditionnellement et humblement, on part toujours du principe qu'il faut d'abord se maintenir avant de jouer quelque chose. Donc, début de saison, on enchaînait les matchs les uns après les autres tranquillement, sans se prendre la tête et en essayant de faire les choses sérieusement. Et puis, petit à petit, on a vu qu'on était dans la course. On a étoffé notre effectif en janvier comme c'était prévu, ce qui nous a mis vraiment bien. Et puis là, on avait l'occasion de rejoindre Chartres ou de le passer. Bon, ça a pas marché hier soir, mais il faut quand même regarder le tout. Cette année a été vraiment exceptionnel en championnat et bon, elle n'est pas finie bien sûr, il y a encore deux matchs, on va essayer de garder cette deuxième place.
Quel est le petit truc qui a manqué pour doubler Chartres?
Je regrette pas grand chose, voilà, ça arrive, c'est pas possible de gagner tous les matchs, on en perd. Peut-être étaient-ils plus frais dans leur tête, moins perturbés par autre chose, mais c'est vrai qu'on mène deux compétitions de fond en ce moment avec la Coupe d'Europe qui nous bouffe pas mal d'énergie. Donc peut-être qu'il y a eu ce petit plus que eux n'avaient pas, et puis voilà.
Justement, la Coupe d'Europe, au match aller, vous avez gagné 3-0. Personne ne vous voit perdre cette finale. Est-ce que c'est un danger aussi de gagner 3-0 le match aller et de se dire, bon, c'est presque fait, quoi, c'est quasiment fait?
Voilà, justement, c'est vrai que ça peut être un piège, mais on a déjà vécu cette situation en quart de finale et en demi-finale, où on avait gagné 3-0 au match aller. Et puis on a été s'imposer au match retour, parce que l'objectif c'est d'aller s'imposer au match retour. Il faut viser haut, il faut viser fort, et c'est pas en allant essayer de gratter juste un petit point que ça va marcher. Nous on va faire le match comme d'habitude pour gagner et donner tout, et puis après on fera les comptes.
Le TTU Cup, c'était une priorité de début d'année?
Ça reste un objectif à part entière, on avait déjà atteint deux fois les demi-finales, c'est vrai qu'on avait envie de passer un autre cap. On a battu en quart de finale, en demi-finale, deux clubs qui descendaient de Champions League, qui étaient favoris pour le titre. Donc, grosse satisfaction. Ça fait 10 ans qu'on est au plus haut niveau et petit à petit, on est en tête en championnat et puis on se rapproche à chaque fois de la finale de TTU Cup. Donc, ça fait plaisir.
Des propos de Fabrice Coutolo, l'entraîneur de la Romagne Tennis de Table, qui vient donc de vivre une semaine riche en émotions.
Prochaine étape, le match retour de Coupe d'Europe entre la Romagne et Angers qui a lieu vendredi soir à 19h30. Merci beaucoup Bastien. Et l'on poursuit cette hebdo région. On file maintenant à direction la Mayenne pour y découvrir l'initiative de la semaine.
L'hebdo région, initiative.
On y retrouve Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Alors Samuel, vous mettez en lumière aujourd'hui à l'initiative du Club des aînés ruraux de Congrier, un petit village près de Cran, où les retraités les plus jeunes de cette association Génération Mouvement pour la cité se mettent au service des plus anciens de la commune afin de leur permettre de sortir de chez eux, d'aller faire des courses, d'aller chez le médecin ou bien tout simplement de venir participer aux activités de l'association.
Et oui Thomas, ça s'appelle le transport solidaire et effectivement le village de Congrier a été le premier en Mayenne à se doter de ce service bénévole pour les personnes âgées. Alors ça existait déjà, notamment dans le Maine-et-Loire. Et d'ailleurs, Claude Cromer, le président du club de l'amitié de Congrier, s'était rendu là-bas pour voir comment ça fonctionnait. Et il avait vu que parfois, c'est pas comme à Congrier, les aînés ruraux qui gèrent ce service. Il y a des endroits où ce sont les centres communaux d'action sociale qui portent cette activité de transport solidaire. À Congrier, ce sont bien les membres de Génération Mouvement qui se transforment quelques jours par mois en chauffeurs bénévoles pour transporter leurs voisins. Alors souvent dans les grandes surfaces, mais parfois aussi chez des médecins spécialistes à Rennes, à Angers ou à Laval, des fois aussi chez le coiffeur, et même ça arrive pour aller à une sépulture. C'est effectivement en fonction des demandes, au cas par cas, et c'est très utile pour ceux qui ne peuvent plus conduire et qui n'ont pas la chance d'avoir par exemple leurs enfants à proximité. Parce que Congrier est un territoire rural, il n'y a plus de commerce, et si on n'a pas de voiture, on souffre très vite de l'isolement. Et c'est justement pour recréer de la solidarité locale, du lien, que Claude Cromer, le président, a souhaité que son club de l'amitié initie cette activité de transport solidaire sur sa commune.
On vient chercher les gens chez eux. S'il y a des problèmes de déplacement, on les aide. On fait les courses avec, on les accompagne, on discute. Donc c'est tout un moment de convivialité qui je pense fait beaucoup de plaisir à ces gens-là. Quand on rentre de course, on les aide à débarrasser leurs affaires, on les range, donc les gens, puis on vous offre un petit café, certains, pas tous, mais ça fait rien, on le fait pas pour le café, on le fait pour parce qu'on a envie de rendre service, point, c'est tout. Faut s'occuper de son voisin, je crois qu'on l'oublie un petit peu ça, s'occuper de son voisin. Donc je pense que c'est très utile et apprécié.
Très apprécié effectivement par les bénéficiaires, d'autant que les retraités bien sûr sont totalement bénévoles, même si le service n'est pas totalement gratuit pour ceux qui font appel à ces chauffeurs bénévoles. On leur demande une participation aux frais de route et c'est on ne peut plus simple de faire appel aux chauffeurs bénévoles de Congrier.
Alors chacun a un papier avec les numéros de téléphone des chauffeurs, chaque chauffeur a des dates réservées. Et les personnes téléphonent directement au chauffeur de façon à ce que ce soit beaucoup plus rapide pour faire le transport. C'est tous les jours de la semaine, sauf le week-end. On essaie de ne pas faire de transport le week-end pour libérer les chauffeurs. Mais toute la semaine, il y a des chauffeurs à disposition.
Alors je le précise, il n'y a pas de société de taxi ou d'ambulance sur la commune de Congrier. Et a priori, pour ce type de déplacement, les personnes âgées ne feraient pas appel à une entreprise. Elles feraient tout simplement l'impasse sur ces sorties. En tout cas, Claude Cromer ne veut surtout pas imposer une concurrence déloyale aux professionnels du secteur.
Surtout pas. Avant d'ouvrir cette activité-là, je m'étais renseigné auprès des professionnels du quartier qui m'ont donné feu vert pour partir dans cette activité.
Et ça fait déjà 4 ans que ça fonctionne à Congrier, que ça aide donc très concrètement les personnes non mobiles de la commune à sortir de l'isolement. C'est d'ailleurs une initiative qui se développe dans les Pays de la Loire. J'ai vu qu'on l'avait initiée du côté de Guémené-Penfao, Mouzeil ou Saint-Père-en-Retz en Loire-Atlantique, à Châteauneuf dans la Sarthe, aux Essarts et à Fontenelle-Comte en Vendée, ou encore à Morane, Chantosseau ou Denay dans le Maine-et-Loire. Vous le voyez, la solidarité intergénérationnelle, c'est l'avenir.
Tout à fait, Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Merci beaucoup Samuel, je vous dis à la semaine prochaine.
Merci, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Allez, nous quittons la Mayenne, direction maintenant la Vendée pour y faire la pause spirituelle. Et nous y retrouvons Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
C'est une des actualités du diocèse de Luçon. Ce vendredi 12 mai à 20h, les paroisses Saint-Sauveur de Bellecroix et Notre-Dame du Mariet dans le Bocage seront consacrées au Cœur Immaculé de Marie.
Un événement qui aura lieu à la veille du centenaire des apparitions de la Vierge Marie aux trois petits voyants de Fatima au Portugal. C'est le père Léonce Mensa, curé de ces deux paroisses, qui officiera en l'église de Saint-Florent-des-Bois. On l'écoute.
La consécration des deux paroisses au Cœur Immaculé de Marie s'inscrit de cette volonté même du Christ, hein, d'abord qui a confié ces gens à Marie. Et vous vous rappelez, Marie au pied de la croix, avec Saint Jean, femme, voici ton fils, et à Saint Jean, voici ta mère. Donc, nous sommes appelés à nous consacrer à Marie, et c'est ainsi, dans le cadre du centenaire de Fatima, j'ai voulu consacrer de nouveau les deux paroisses au Cœur Immaculé de Marie pour que vous redemandiez une grâce, plus de grâce de prière. C'est par la prière que le monde va être sauvé.
Le père Léonski, afin de se préparer au mieux à cette consécration, a demandé à ses paroissiens d'entamer une neuvaine de prières du 4 mai dernier jusqu'à ce 13 mai.
La neuvaine, elle consiste dans la récitation du chapelet, avec les intentions, à chaque fois des intentions particulières, en récitant les mystères, donc les quatre mystères, mystères glorieux, joyeux, lumineux et douloureux. Et donc à chaque fois, il s'agit de réciter ce chapelet dans l'optique de la consécration au Cœur Immaculé de Marie.
Et le père Léonce en est certain, la consécration de ces deux paroisses et par là même des couples, des familles et de tous ses fidèles est une réponse à l'appel de la Vierge à Fatima.
La Vierge de Fatima, c'est d'abord le message qui est un message universel. Qui rappelle le message fondamental pour le salut, hein, qui passe par effectivement cette disponibilité de l'homme, donc de l'Église à Dieu. C'est cela la consécration à Marie, donc la consécration au Cœur Immaculé de Marie, ce cœur qui s'est rendu disponible pour Dieu et à travers lequel Dieu s'est manifesté à réaliser le mystère de l'incarnation, donc du salut pour l'homme.
La consécration des deux paroisses de Saint-Sauveur de Bellecroix et de Notre-Dame du Mariet et de tous les fidèles qui souhaitent s'associer à cette démarche a été bien accueillie au sein des paroissiens.
Vous savez, moi je suis témoin des merveilles qui se réalisent au cœur de mes paroissiens, dans la vie de mes paroissiens, parce que c'était une aubaine, c'était une grande chance. Enfin, ça a été très bien accueilli, cette proposition. Et de fait, pendant les neuvaines, les jours de la neuvaine, il y a du monde qui vient pour prier. Donc cela me permet de voir, de réaliser combien une spiritualité mariale, la spiritualité mariale est très importante pour la croissance de l'Église et évidemment pour le combat spirituel aujourd'hui.
Ce vendredi 12 mai, veille du centenaire des apparitions de Fatima, consécration des paroisses Saint-Sauveur de Bellecroix et Notre-Dame du Mariet au Cœur Immaculé de Marie par le curé de la paroisse, le père Léonce Mensa, en l'église de Saint-Florent-des-Bois à partir de 20h.
Voilà, voisins, amis, paroissiens d'ailleurs en Vendée, mais même aussi de la région, vous êtes donc invités à participer à ce moment de prière par votre présence ou bien en communion de prière. Merci beaucoup Fanny.
Merci Thomas et à la semaine prochaine.
Allez, nous restons en Vendée pour une autre actualité qui se déroule ce week-end. Au Sable d'Olonne, elle mêlera la fête populaire et le spirituel. C'est votre rubrique « Et si on sortait ?»
L'Hebdo Région, « Si on sortait ?»
La Vendée se prépare à fêter ce samedi les champions du Vendée Globe. Une cérémonie de clôture de ce 8e Vendée Globe inédite, a promis le président du conseil départemental Yves Auvinet. Après une remise des prix réservée aux skippers, à leurs familles et à leurs équipes, qui se fera au centre des congrès des Atlantes à partir de 20h. Une formule moins onéreuse que les précédentes. Les Vendéens pourront applaudir leurs champions le long des 1,6 km de la déambulation festive qui aura lieu entre la place de Strasbourg et les Atlantes, entre 21h30 et 22h30 sur le remblai des Sables d'Olonne. C'est Philippe Mindron, habitué à organiser ce genre d'événement, à qui l'on doit le festival de poupées, qui nous dévoile donc les détails de cette grande parade.
On va les voir en se répartissant sur les 1,5 km ou 600. Donc c'est pas compliqué, c'est juste nous qui allons venir à la rencontre des spectateurs en déambulant. Voilà, en espèce d'immense spectacle de rue finalement, où on embarque chaque cap dans une plateforme mobile différente. Et sur chaque plateforme, on amène danse et musique du pays. Enfin, du pays, je dirais même plus, du continent. Voilà, donc ça va nous amener par l'Afrique, évidemment, l'Océanie, et on finira par l'Amérique.
Et enfin, peut-être un dernier char avec alors, tous les skippers.
Enfin, le bouquet final, là, serait sur le gâteau, l'apothéose. Voilà, une espèce de bus ouvert, mais plus qu'un bus ouvert. Hein, c'est à nouveau un bus, je dirais, plutôt design, plutôt futuriste, voilà, qui va amener les skippers au deuxième étage. Voilà, d'une structure qui est quand même vraiment, vraiment impressionnante. Et là, l'idée, c'est de faire une fête populaire. Hein. On embarque un DJ. Il y a une jeune présentatrice qui est juste parfaite, qui s'appelle Stella Carpentier, que je vous invite à découvrir, qui a 25 ans, voilà, qui va ambiancer tout ça. Voilà, donc l'idée, c'est de faire une grande communion avec le public. Voilà, c'est la fête. C'est la méga fête, puisque c'est que des champions. Voilà, c'est un moment historique à nouveau. Hein. Et l'idée, c'est de le faire partager avec le plus grand nombre et le plus de public.
Ensuite, les spectateurs n'auront plus qu'à se retourner vers la jetée et à descendre sur la plage pour admirer le feu d'artifice qui, selon les mots même de l'artificier Jacques Couturier, nous donnera parfois l'illusion de se retrouver en plein jour.
C'est un spectacle pyrotechnique d'exception, parce que c'est un événement d'exception. Et ce spectacle-là va retracer l'épopée du Vendée Globe, va nous faire revivre les temps forts, le départ, le cap au large, le passage du Cap Horn, les 40e rugissants, les 50e hurlants, mais aussi l'aventure, le rêve, aussi les moments doux, les moments calmes, les moments d'émotion, parce que le Vendée Globe, c'est une aventure humaine. Et le spectacle va être à la couleur de cette aventure humaine, c'est-à-dire à la fois grandiose et en même temps aussi un moment d'émotion. Et j'attends avec beaucoup d'impatience ce moment que je crois qu'il sera un grand moment de bonheur.
Une journée qui se terminera de manière festive, mais qui aura commencé dans le recueillement. Cette remise des prix est aussi le jour de départ de la Vierge de Rocamadour, sainte patronne des navigateurs, qui avait pris ses quartiers dans l'église de Notre-Dame-du-Bon-Port, veillant durant toute cette course sur les skippers. Une messe d'action de grâce est prévue ce samedi matin à 10h30 en présence de l'équipe de direction de course et de certains des skippers. Écoutez le père Vincent Lautram.
Nous avons retenu le même jour pour que c'est une grande cohérence entre la vie de la paroisse, la vie chrétienne et la vie publique de cet événement sportif au top niveau. Le samedi 13 mai aura lieu à 10h30 une messe d'action de grâce à l'église Notre-Dame-de-Montport. À la fin de la messe, il y aura une présentation de deux clips qui ont été faits, deux petits films, un par l'AMP Interactive et puis un autre pour une association qui s'appelle Les Voiles de l'Immaculée, donc qui présente aussi le projet de départ de cette Vierge de Rocamadour. Ça coïncide aussi évidemment avec le centenaire des apparitions de Fatima, donc c'est important de pouvoir nous retrouver autour de la Vierge Marie.
La Vierge de Rocamadour ne retournera pas tout de suite dans son sanctuaire, mais prendra la mer pour une autre mission plus longue avec l'association des Voiles de l'Immaculée.
Une petite association va la mener pendant 3 ans, à partir de septembre prochain jusqu'à septembre 2020, à travers les océans du monde, à la rencontre des habitants des îles, des ports, des sanctuaires, etc. Une véritable mission d'évangélisation, donner de la joie dans un monde voilà, qui est en pleine recherche, nous le voyons chaque jour, hélas. Et donc elle part sur un waram, donc c'est une double pirogue, une construction traditionnelle qui est encore actuellement en Angleterre. Et elle va donc partir. Et donc, s'il y a même des personnes qui veulent suivre ce périple, il y a un blog qui existe et on la verra de site en site.
Un retour dans 4 ans pour le prochain Vendée Globe pourrait donc être envisageable, selon le père Vincent Lautram. En attendant, rendez-vous samedi 13 mai pour la messe d'action de grâce envers Notre-Dame de Rocamadour à l'église Notre-Dame-du-Bon-Port à 10h30, pour terminer à partir de 20h par la remise des prix de ce 8e Vendée Globe en présence de tous les skippers sans exception sur le remblai et pour finir en apothéose sous un ciel de feu. Voilà, il est l'heure maintenant de se quitter. C'est la fin de cette hebdo-région des Pays de la Loire qui vous était présentée par la rédaction de RCF Vendée avec l'aide des rédactions de vos radios chrétiennes des Pays de la Loire. Merci à tous de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.